Suivez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour à tous, bienvenue que vous nous écoutiez avec votre poste de radio, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone portable, par les réseaux internet. C'est justement le cœur de métier de notre invité, notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique que je reçois avec mon camarade Julien Clémenceau. Bonjour Julien.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Notre invité est le directeur général d'Orange, chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique. Bonjour Aliou Ndiaye.
Bonjour Bruno.
Merci infiniment d'être venu dans nos studios pour répondre à nos nombreuses questions qui concernent cette entreprise française, leader dans plusieurs pays sur le continent africain. Orange, un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros soutenu par la zone Afrique et Moyen-Orient. Un peu plus de 140 000 salariés dans le monde. On va parler ensemble de ce qui fonctionne et de ce qui marche moins bien. D'abord, comme d'habitude, un bref résumé de votre parcours personnel avec Julien Clémenceau.
Aliou Ndiaye, vous êtes depuis 2018 le patron de la holding OMEA qui regroupe les 17 filiales africaines du groupe Orange. Premier Africain à occuper ce poste au sein de votre entreprise, vous demeurez aujourd'hui une exception à ce niveau de responsabilité dans les groupes du CAC 40 actifs sur le continent. Un poste exposé que vous assumez avec une certaine discrétion, limitant notamment vos obligations médiatiques. Si l'Afrique tout entière occupe maintenant vos journées, vous restez avant tout un Sonatelien, nom que se donnent entre eux les salariés de Sonatel, la filiale sénégalaise d'Orange où vous avez fait l'essentiel de votre carrière. Avant d'en prendre la direction, vous avez géré ses finances, mais aussi dirigé pendant 10 ans l'une de ses filiales, Orange Mali. Aliou Ndiaye, c'est dans la région de Thiès, à l'est de Dakar, non loin de l'usine que dirigeait votre père, que vous avez grandi. Brillant à l'école, vous avez pris après le bac la direction de la France, mais rapidement, vous êtes rentré au Sénégal après l'obtention de vos diplômes à l'Institut des Télécoms de Paris et à l'Université Paris-Dauphine. Pourquoi ce choix? Pourquoi le retour au pays?
Pour moi, c'est naturel. Hein. C'est que je ne suis jamais venu en France en imaginant que j'y resterais. J'étais venu avec l'idée qu'il faut que je serve mon pays, qui m'a quand même tout donné, parce que j'étais bénéficiaire d'une bourse et j'ai fait mes études grâce à cette bourse. Donc je devais ça à mon pays. Donc,
si vous n'aviez pas eu cette bourse en terminale, vous ne seriez pas venu en France?
Je ne serais pas venu en France, je ne pense pas.
Alors, vous êtes désormais basé à Casablanca, où OMEA, la holding du groupe Orange qui gère les activités africaines, s'est installée début 2020, juste avant la crise du Covid. À 62 ans, vous auriez pu faire valoir vos droits à la retraite, mais votre départ, au moment où il y a un grand changement de gouvernance au sein du groupe Orange, aurait sans doute bouleversé la gestion des filiales africaines et on vous a demandé de rester.
Personne n'est indispensable. J'ai eu la chance dans ma carrière, assez verticale du reste, hein, d'avoir toujours fixé le moment de la sortie. Et effectivement, j'avais fixé le moment de la sortie en ce qui concerne ce poste de PDG d'Orange Middle East and Africa. Pour l'instant, il y a, comme vous savez, une nouvelle CEO, un nouveau président. Et donc, les choses, je pense, sont en discussion. Mais je suis plus porté à discuter avec la nouvelle CEO de comment je peux faire une transition et accompagner le groupe pendant cette phase de transition.
La nouvelle directrice générale d'Orange, Christelle Heidemann, une nouvelle ère s'ouvre pour l'entreprise. Nous allons avoir largement le temps d'en parler, de ces défis qui attendent Orange pour l'ensemble également de ce secteur majeur de l'économie dans un monde de plus en plus dématérialisé où l'on se parle, où l'on commerce à distance. Cet entretien avec Aliou Ndiaye est enregistré et filmé. Vous pourrez revoir les meilleurs extraits sur les réseaux sociaux, sur les comptes de Jeune Afrique et de RFI. Notre compte à nous tient en deux mots, RFI Echo, Echo E-C-O bien sûr. Partagez, commentez. Le patron d'Orange en Afrique avec nous pour 3 quarts d'heure. C'est parti. Et je vais d'abord vous lire le message d'un internaute camerounais, abonné de notre compte RFI Echo sur Twitter. Il s'appelle El Aziz Demorera. Il dit aux dirigeants d'Orange: pensez à revoir vos différentes tarifications. Tout le monde a besoin de communiquer, mais vos grilles de prix sont trop élevées. Aliou Ndiaye, C'est une vraie préoccupation en ce moment pour beaucoup d'Africains, ce coût de la vie, l'inflation, le prix des produits de première nécessité, la guerre en Ukraine a encore aggravé la situation. Est-ce que vous craignez un appauvrissement général et donc, pour vous, Orange, moins d'argent pour payer les communications, pour payer de la data Internet?
Orange fait, dans le cadre de sa stratégie d'inclusion numérique, donc pour permettre au maximum d'Africains d'accéder à Internet, et Orange fait tous les efforts pour que les prix soient le plus abordables possible. Je vais être précis là-dessus. Les Nations Unies considèrent que pour que l'Internet soit considéré comme abordable, il faut que le prix du gigaoctet par mois soit inférieur à 2% du revenu moyen brut de l'individu. Dans le continent africain. On était à 13,2% du revenu moyen en 2016, je parle de tous les opérateurs en Afrique. On est passé à 4,2% en 2019 et les prix continuent à baisser. En ce qui concerne Orange, nous sommes dans 18 pays. Dans 9 de ces pays, le prix moyen du gigaoctet est inférieur à 2% du revenu moyen brut de nos clients. Donc ça veut dire, au vu des Nations Unies, c'est considéré comme des prix abordables. Après, il y a d'autres pays où ça dépasse 2% du revenu brut moyen. Je peux en citer quelques-uns, mais...
Est-ce que le Cameroun, d'où nous parlait notre internaute, est-ce que c'est le cas du Cameroun?
Au Cameroun, le gigaoctet coûte moins de 2% du revenu moyen du Camerounais. Mmh. Ouais, exactement. Et il y a encore 8 autres pays dans lesquels c'est le cas, et les prix vont continuer à baisser.
Le mouvement est lancé, Julien.
L'augmentation des cours du pétrole, mais aussi les tensions sur le marché du blé, l'inflation partout dans le monde, y compris en Afrique. Les gouvernements cherchent des marges de manœuvre. Tous veulent éviter d'alimenter les mouvements de contestation sociale. Est-ce que cela explique la hausse de la pression fiscale sur le secteur des télécoms qu'Orange dénonce actuellement et peut-être plus fort qu'auparavant?
Il y a toujours eu une pression fiscale que nous considérons comme un peu forte. Dans tous les pays où nous sommes présents, dans presque tous les pays où nous sommes présents, qui vont jusqu'à parfois 30 à 40% du chiffre d'affaires qui est prélevé par l'État. Ce que nous disons, c'est que Orange s'est implanté en Afrique il y a un quart de siècle, avec un objectif de consolider cette présence sur le continent africain, et puis d'y développer son activité avec les produits et services adaptés aux spécificités des Africains. Donc, il y a un dialogue avec les gouvernements dans chacun de ces pays. Ce dialogue, il doit permettre d'avoir un cadre fiscal réglementaire qui soit un peu plus prévisible, prédictible, qui soit un peu plus équilibré, qui soit en capacité de s'adapter à notre industrie qui évolue de manière très rapide. Et c'est vrai que les pays africains, d'ailleurs souvent sous les conseils d'institutions de financement international aussi, qui leur disent ben, il faut augmenter la pression fiscale globale et il faut aller chercher l'argent là où il existe.
Mais comment on fait quand on a des intérêts aussi divergents? L'État a besoin d'argent et vous essayez d'imiter les prélèvements.
Là, vous parlez avec des mots gentils, avec des mots diplomatiques, mais ouais. on sent quand même qu'il y a une forme de colère de votre part. Comment on trouve ce compromis?
Je pense que c'est pas de la colère, mais c'est plus un exercice de conviction qu'il faut qu'on continue à alimenter dans le dialogue que nous avons avec les autorités. Il y a des pays, je donne un exemple, le Mali, quoi qu'on dise, mais le modèle au Mali a été, du point de vue de l'État, de dire on met un niveau de fiscalité et d'impôts, taxes, redevances sur l'opérateur télécom qui est raisonnable.
C'est quel niveau?
C'était le plus bas à l'époque, en tout cas, quand on le lançait dans tous les pays où nous sommes présents. C'était le niveau le plus bas. Ça veut dire qu'il y avait, au départ, il n'y avait même pas de taxe spécifique au secteur des télécoms, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt entre 6 et 10% de taxes spécifiques secteur télécom dans presque tous nos pays.
Donc c'est des taxes sur les pylônes, des choses comme ça? Même pas?
Non, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires, sur les revenus générés par le secteur, en dehors du droit commun, la TVA et tout ça. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les gouvernements, ceux qui ont fait le pari de dire on met un niveau de taxe qui est supportable pour que la société génère suffisamment de bénéfices, mais je lui mets des obligations d'investissement, ce modèle-là, il est plus vertueux parce que finalement, à moyen terme, les États ont plus de revenus que s'ils avaient mis un niveau de taxe élevé et bridé le secteur. Au Mali, pour revenir sur l'exemple, on est le premier contribuable Et c'est l'un des pays où on génère le plus de revenus pour l'État. Mais ils ont quand même fait le pari au départ de ne pas brider l'activité par un niveau de taxes élevé.
Est-ce que ces taxes, ça vous empêche de baisser les prix ou ça ralentit cette baisse des prix? Ou ça n'a pas d'impact?
Non, je pense que ça réduit déjà l'activité. La taxe a un impact d'élasticité chez les clients. Ils consomment moins, donc on a moins de revenus, on génère moins de bénéfices, on investit moins. Bon, après, il faut négocier au cas par cas dans chacun des pays. Mais encore une fois, les États ont aussi des contraintes. Et il faut tenir compte aussi des contraintes des États et continuer le dialogue qui permette d'avoir un niveau équilibré, mais surtout prédictible et stable.
C'est ça votre préoccupation, ouais. Particulièrement en temps de crise. Au-delà de ces questions fiscales, au-delà de ces tensions sur les prix, il y a une concurrence sur le continent africain qui est de plus en plus forte dans le secteur des télécoms. Illustration en Guinée, où Orange survole le marché, mais du fait de cette position dominante est parfois la cible de critiques. La concurrence commence à montrer le bout de son nez. C'est un reportage à Conakry de notre correspondant Mathias Reynal.
73.
Sur la devanture de l'épicerie d'Abdoulaye Diallo cohabitent les logos de MTN, Orange, trois opérateurs téléphoniques. Les consommateurs guinéens auraient l'embarras du choix.
Orange domine par rapport à MTN parce que ça marche beaucoup. C'est rapide.
Une connexion Internet stable et haut débit grâce à la 4G.
Quand tu demandes les services clientèle, quand il y a une erreur, tu appelles les services clientèle, ils peuvent te faire directement. Mais si c'est MTM, ça retarde beaucoup. Ils vont te dire attendez, patientez, ceci, cela. Donc c'est à cause de ça, les gens aiment Orange.
Le mobile money serait plus abouti avec Orange, qui domine tous les services rattachés aujourd'hui au marché de la téléphonie. Mais la concurrence est là, discrète. Elle se cache dans le téléphone des Guinéens. Ils sont nombreux à avoir deux cartes SIM, un numéro Orange, un autre MTN. Abdoulaye Diallo.
Moi, je me connais, j'ai deux. J'ai MTN, j'ai Orange. Orange, ça bouffe vite par rapport à MTN aussi. MTN, quand je me connecte, vraiment, ça peut me faire 24 heures.
Yacouba Diallo est aussi épicier et il a son explication.
En fait, ça ne consomme pas réellement le montant. Parce que tu peux acheter une connexion de 2 gigas ou 1 giga, mais ça ne fait pas réellement ce que tu voulais que ça fasse.
En clair, Orange, pour lui, surévaluerait ses enveloppes data. Mohamed Saliou Touré a bien deux puces dans son smartphone, mais s'il pouvait se passer de celle d'Orange, il le ferait, sans hésiter.
Orange, ça marche très bien, mais ça mange.
Le message est envoyé, mais sera-t-il lu par le destinataire? Si les Guinéens s'estiment satisfaits du service d'Orange, ils ont l'impression de ne pas payer le juste prix.
Reportage de Mathias Reynal à Conakry. À Liungaye, on se résume. Orange, ça fonctionne bien, mais ça mange, ça bouffe de la data, comme disent les Guinéens que l'on vient d'entendre.
Notre pari, enfin, c'est l'ADN d'Orange. Pour nous, la connectivité, elle n'est pas pour quelques personnes, elle est pour tout le monde. Donc, nous faisons en sorte que le maximum de personnes puissent accéder à l'Internet. L'exemple de la Guinée est un bon exemple. Dans tous les pays où nous sommes présents, nous mettons un point d'honneur à délivrer une qualité de service aux clients qui soit vraiment du même niveau que ce qu'on peut attendre dans des pays beaucoup plus développés.
Là, les Guinéens, voilà. Qu'on vient d'entendre, ils sont d'accord avec ça.
Voilà, donc on investit beaucoup pour le faire. Après, on fournit le rapport qualité-prix pour le client, il y est. C'est sûr que la Guinée n'est pas encore parmi les 9 pays dont je vous ai cité qui a les tarifs abordables, mais les tarifs d'Orange Guinée ne cessent de baisser et certainement on arrivera également à rentrer dans ce cap-là de 2% des revenus. Et vous avez bien, enfin j'ai bien retenu aussi dans le reportage, je ne dirais pas la domination, mais le leadership que Orange a en Guinée. C'est un leadership de compétences. Il est construit sur de l'investissement, de la compétence des équipes, une mobilisation pour fournir de la qualité. Et c'est ça qui peut-être coûte un peu plus cher.
Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent « avec MTN, ma data part moins vite ». Là, il y a une personne qui disait « ça dure 24 heures, alors qu'avec Orange, ça part plus vite ».
Enfin, je pense qu'on a de temps en temps des plaintes clients dans tous les pays. On les traite par des circuits bien organisés. On a des services clients qui répondent. Il est possible que certains clients aient cette perception-là. Mais vous savez, dans notre industrie, quand vous avez un bon niveau de qualité de service, ça veut dire que quand vous regardez une vidéo, si le débit n'est pas bon, évidemment, vous consommez moins. que si le débit est très bon, donc vous regardez votre vidéo plus rapidement, vous consommez plus, vous payez plus, mais vous avez l'impression de payer plus que si la qualité était mauvaise et que vous reprenez l'exercice plusieurs fois.
Le présent et l'avenir, c'est la 4G. Orange, pour ce qui concerne, par exemple, la Guinée, est déjà présente avec la 4G. MTN vient d'acheter une licence, l'opérateur sud-africain. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul, y compris sur ce segment.
On a toujours fait le choix d'être le premier à apporter les technologies les plus récentes. Et c'est le cas en Guinée, c'est le cas dans plein d'autres pays. On a déployé la 4G dans 17 pays. Aujourd'hui, on a 44 millions de clients qui sont 4G. C'est-à-dire un client sur trois d'Orange et accède à la 4G. Donc, c'est notre pari. Et demain, on passera à la 5G. On a déjà 10 pays dans lesquels on a fait des pilotes. Et on va déployer la 5G pour justement décongestionner les réseaux dans les endroits qui sont très peuplés, à Abidjan, Dakar, à Casablanca. Et ça, on le fait justement pour être les premiers à porter la technologie et donner la meilleure qualité de service à nos clients.
Vous aurez la 5G avant Airtel, avant Vodafone, avant tous les autres.
Je ne peux pas dire pour eux, mais en tout cas, on va lancer au Botswana avant la fin de l'année, la 5G. Donc, on essaye d'être les premiers sur la 5G pour répondre aux besoins des clients.
Au-delà d'Internet, il y a la diversification des activités d'Orange. Dans votre plan quinquennal Engage 2025, Orange a annoncé viser 900 millions de revenus issus de l'activité Mobile Money. Mais cette prévision, c'était avant l'arrivée de la start-up Wave, qui secoue les marchés ouest-africains en cassant les prix. Comment vous répliquez à cette nouvelle concurrence ?
D'abord, Orange Money, le service donc financier mobile, est un véritable succès. On l'a lancé en 2008. Aujourd'hui, nous l'avons lancé dans 17 pays. Il y a 70 millions de comptes ouverts. Il y a 400 000 points de vente sur ces 17 pays-là. Donc, c'est un véritable succès. Bien entendu, il y a un énorme potentiel encore dans ce domaine-là. Parce que vous prenez l'exemple de l'Afrique subsaharienne. 80% des personnes n'ont pas de compte bancaire. Et ces gens-là ont besoin quand même d'utiliser des services financiers. Donc, c'est un succès. Évidemment, quand il y a autant de potentiel, parce qu'il y a un déficit aussi important, ça attire aussi d'autres investisseurs. Donc, l'arrivée de la fintech Wave est quand même disruptive, il faut le reconnaître. Parce que Wave arrive avec un modèle un peu californien, parce qu'il est financé par des venture capitalistes qui ne sont pas forcément très attachés à la rentabilité à court terme, mais qui mettent de l'argent, qui se disent « Wave arrivera à prendre tout le marché ou à tuer tous les autres », entre guillemets, et qu'à ce moment-là, on pourra sortir
donc
de
revendre.
La société, voilà, revendre avec un multiple de 10 ou de 15. C'est exactement ce que Amazon a fait. Et donc, le modèle Wave est un modèle un peu à la Amazon. On vend, on brûle du cash pendant très longtemps. Amazon l'a fait pendant plus de 10 ans. Et on espère, à ce moment-là, pouvoir tuer tout le monde et sortir tout seul. Nous, on a décidé de se battre sur ces marchés-là. Parce que il faut bien savoir que Wave apporte effectivement tout ça. Wave permet de casser les prix. On a riposté en cassant nos prix, en nous alignant ou en étant même moins cher que Wave maintenant, par exemple au Sénégal.
Donc ce sont des prix divisés par 3 ?
3 ou 4, oui, selon les pays. Mais on a riposté en étant nos prix, en développant des applications pour être encore plus digital. Et tout ça, on le fait, mais il ne faut pas que nos clients pensent qu'on a divisé les prix par 3, on aurait pu le faire avant. Parce que j'avais un professeur de Stanford là, qui disait ça, c'est de la rétrospective rationalisation. Ça veut dire que les entreprises ne s'auto-disruptent pas. On ne peut pas aujourd'hui dire pourquoi, 3 ans avant l'arrivée de Wave, on n'a pas divisé nos prix par 4. Pourquoi ? Parce qu'on a derrière des dizaines de milliers d'emplois qui avaient été créés par le réseau de distribution qu'on a développé. Ça veut dire, en développant Orange Money, je vous ai dit tout à l'heure, 400 000 points de vente, les distributeurs ont investi pour amener le service Orange Money dans des localités où jamais on ne l'aurait amené s'il n'avait pas ces revenus-là. Il faut savoir que 50% du chiffre d'affaires Orange Money, il allait chez les distributeurs. Donc c'est eux qui, après, permettaient d'avoir un réseau émaillé qui va dans les zones rurales pour couvrir des populations qui n'auraient jamais eu accès aux services financiers mobiles. Wave arrive, ces distributeurs, ils perdent 50 à 75% de leur chiffre d'affaires. Ils ferment, des emplois disparaissent. On en a perdu 20 000 au Sénégal. On va en perdre autant peut-être dans d'autres pays. Mais on résiste. Et c'est la raison pour laquelle on s'était pas auto-disrupté avant. C'est que quand on est une entreprise qui a un business model solide, qui est rentable, on ne va pas supprimer 30 000 emplois dans un pays parce qu'on peut baisser les coûts des distributeurs.
Restons encore quelques instants sur le mobile money, les transferts d'argent. Parmi les demandes des consommateurs africains, il y a ce que l'on appelle l'interopérabilité, pouvoir envoyer de l'argent à une personne qui n'utilise pas le même opérateur. Malgré vos efforts, par exemple en Côte d'Ivoire, tout manifestement n'est pas résolu. Écoutez ce reportage de notre correspondant à Abidjan, François Imferkataji.
Paiement des factures ou transfert de fonds à des proches, le service mobile Money est devenu quasiment incontournable dans un pays où le taux de bancarisation est seulement de 30%. Mais un problème reste crucial, la grande difficulté de réaliser des échanges d'un compte mobile Money à un autre si l'opérateur est différent.
C'est une difficulté au quotidien parce qu'à partir d'Orange Money, on n'arrive pas à payer d'autres transactions telles que Move ou bien MTN Money, on n'arrive pas à le faire. Pourtant, ce n'est pas tout le monde qui a Orange Money.
Quand vous avez un seul réseau et vos parents ont certainement le réseau opposé, dans ces localités-là, il y a seulement peut-être qu'un seul réseau qui passe. S'il y a seulement MTN qui passe pendant qu'à Abidjan, vous êtes sur une puce Move, vous vous rendez compte que c'est difficile pour les parents au village de recevoir. Vous allez faire beaucoup de micmacs pour pouvoir donner de l'argent en fait à votre parent au village.
Seule amélioration du service ces dernières années pour les utilisateurs, l'arrivée sur le marché de Wave. Le concurrent américain a cassé le marché et facilité les transactions. En proposant une commission à 1% au lieu de 10%, la start-up a obligé les autres opérateurs à s'aligner.
Ça fait que ça a diminué un peu le coût et puis il y a eu plus de fluidité et puis bon, c'est bon quoi, c'est acceptable et ça devient indispensable.
Wave a vraiment mis la barre haute par rapport à la concurrence. Ça fait qu'aujourd'hui, Orange, MTN et Move ont commencé à réduire aussi leur taux de 10%. Et vraiment, ça, c'est avantageux pour nous.
Orange et MTN n'ont pas renoncé à leur projet Mowali visant à l'interopérabilité, mais les deux sociétés devraient plutôt réorienter leur vision et investir le segment des transferts internationaux entre différentes zones monétaires, en raison notamment des obstacles rencontrés et des réglementations régionales sur les transactions financières. François Imferkataji à Abidjan, RFI.
Alioune Diaye, Mowali, l'interopérabilité, bilan mitigé ou bon bilan ?
Plutôt mitigé, parce que pour des raisons réglementaires. Nous avions avec MTN le projet de réaliser une plateforme d'interopérabilité qui permettrait à nos 400 millions de clients sur le continent de procéder à des transferts les uns vers les autres de la même manière qu'on le fait au sein d'Orange Money. L'objectif, c'était aussi après de faire venir les autres acteurs majeurs du continent sur la même plateforme. Donc ce projet, nous l'avons lancé en octobre 2018. Nous avons même développé les solutions pour avoir la plateforme qui permettrait d'orienter donc les flux vers les clients, quel que soit l'opérateur, et d'être capable aussi d'être la chambre de compensation entre les différents acteurs. Mais il s'est heurté à une décision des banques centrales que nous respectons, qui est de dire qu'ils préfèrent gérer eux-mêmes cette interopérabilité. Donc ça n'empêche pas que ce projet de Visa africain, pour le mobile money, reste une idée qui, un jour ou l'autre, va se réaliser sur le continent au bénéfice des clients.
Encore une question sur les services bancaires d'Orange avec Julien Clémenceau.
Oui, Orange Banque Africain, on n'a pas beaucoup de détails. Vous parlez de 700 000 clients. Qu'est-ce qui montre que ce service fonctionne bien ? Vous allez le lancer au Sénégal et que c'est un succès. Comment vous pouvez nous apporter plus de détails sur cette activité qu'on connaît mal et sur laquelle vous communiquez assez peu ?
D'accord. D'abord, créer une banque, ça signifie que vous acceptiez pendant un certain nombre d'années de perdre de l'argent. La rentabilité, elle n'est pas immédiate. Le constat qu'on a fait à partir d'Orange Money, qui permet de transférer de l'argent, payer des factures d'électricité, recharger son compte, etc., c'est qu'il y a un marché du crédit qui est très peu développé. Aujourd'hui, 83% des crédits qui sont accordés aux populations en Afrique se font en dehors des institutions financières. Et l'idée pour nous, c'est de dire, il y a tellement d'artisans, de commerçants, de petits entrepreneurs dans tous nos pays en Afrique, les tailleurs, les commerçants, les vendeurs de poissons, tous ces gens-là, qui ont juste besoin d'un fonds de roulement pour maintenir leur activité, la développer, créer plus d'emplois. Pour moi, c'est un réservoir énorme de création d'emplois. Et notre objectif, c'est justement de permettre à ces gens-là, avec des crédits qui vont de 5 000 francs CFA, donc 7 euros peut-être, jusqu'à 300 000 francs CFA, ça fait 500 euros, un peu moins de 500 euros, de pouvoir en 10 secondes emprunter ce montant-là et l'avoir sur son compte, aller acheter ses matières premières, tenir son activité, la développer et créer de nouveaux emplois derrière. C'est ça le sens du d'Orange Bank
Africa. Et ça prend du temps alors, c'est ça.
On l'a ouvert en Côte d'Ivoire, mais c'est ce que je vous dis. Si on a fait 1 million de crédits en 18 mois, c'est quand même, ça veut dire que c'est une croissance exponentielle des crédits accordés. Et donc, sous réserve que les banques centrales, la Banque centrale nous autorise à ouvrir les succursales au Sénégal, au Mali et au Burkina. Nous, en tout cas, on a une roadmap qui est prête et on attend les autorisations.
Comment Orange peut participer à la relance de l'économie africaine? On continue d'en parler avec Alioune Ndiaye, directeur général pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Il est le grand invité de l'économie RFI, Jeune Afrique, entretien à partager et à commenter sur Facebook et Twitter, sur les comptes de Jeune Afrique et de l'émission Écho d'ici, Écho d'ailleurs, RFI Écho.
Je pense qu'il y a un niveau d'exigence par rapport à cette entreprise qui est extraordinairement élevé. On essaye, je crois vraiment, de faire le maximum de ce qu'on peut. Mais je suis assez fier au total de ce qui a été fait.
Vous avez sans doute reconnu cette voix, Alioune Ndiaye, fier de ce qui a été fait. Quelques mots prononcés par Stéphane Richard, président directeur général d'Orange, il y a quelques semaines, chez nos confrères de France Inter. Stéphane Richard, qui s'apprête à passer la main après avoir démissionné sous la pression. On va parler de ce changement de gouvernance, de ce bouleversement important pour votre entreprise. Julien.
Stéphane Richard a toujours plaidé pour le développement d'Orange en Afrique. Il s'y est rendu plusieurs fois. Est-ce que la toute nouvelle directrice générale du groupe, Christelle Edelman, partage cette volonté de poursuivre le développement du groupe au sud de la Méditerranée? Et si oui, est-ce qu'il y a de nouveaux moyens?
Le conseil d'administration d'Orange, après un processus rigoureux de sélection, a décidé de nommer Christelle Edelman le 28 janvier. Christelle est une personnalité aux compétences reconnues dans l'univers des télécoms et de la transformation de l'entreprise. Stéphane Richard était quelqu'un de convaincu sur la capacité du groupe à s'appuyer sur la zone Afrique-Moyen-Orient pour son développement. En 2021, la zone Afrique-Moyen-Orient représentait 15% du chiffre d'affaires. 11 ans avant, c'était la moitié. Mais surtout, 86% de la croissance d'Orange en 2021 vient de la zone Afrique-Moyen-Orient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que il y a un tel potentiel sur le continent. Il est en 2050, un habitant de la planète sur quatre sera un Africain. Le PIB de l'Afrique en 2050, il atteindra 9% du PIB mondial, contre 3% aujourd'hui. Il sera supérieur au PIB de l'Union européenne. En Afrique subsaharienne, il y a un déficit d'infrastructures.
Là, vous faites un plaidoyer pour le continent et vous appuyez sur des chiffres et des prévisions. Ça, c'est réel. Mm-hmm. Est-ce que c'est partagé par la nouvelle directrice générale?
Non, mais j'explique tout ça pour dire que le potentiel qu'on a en Afrique, ce que ça représente aujourd'hui dans la croissance d'Orange est tel que je ne pense pas qu'on puisse remettre en cause l'intérêt et la présence d'Orange sur le continent africain. Je pense que Christelle n'est pas une personne qui est nouvelle dans l'écosystème. Elle était quand même au bord d'Orange. Et elle connaît aussi toutes les décisions qui ont été prises sur l'Afrique, celles qui ont réussi, celles qui n'ont pas réussi. Donc...
Mais vous ne voulez pas parler à sa place?
Non, je ne veux pas parler à sa place. Je ne veux pas parler à sa place. Exactement. Et par contre, moi, j'ai la conviction qu'elle connaît bien les sujets.
Et donc, elle est convaincue.
Elle est consciente aussi de ce que représente l'Afrique pour le groupe.
Ces dernières années, on attendait l'entrée sur un gros marché. On a pensé vous voir entrer peut-être en Éthiopie, mais vous auriez pu viser le Nigeria peut-être, qui est le plus gros marché, la première économie continentale. Ce n'est pas venu. Aujourd'hui, le groupe Orange est en train de faire une acquisition importante en Espagne avec Masmovil. On a l'impression que l'Afrique doit encore attendre pour cette grosse opération. On avait peut-être aussi pensé voir une fusion avec un gros acteur, un de vos concurrents.
On verra avec, avec la nouvelle gouvernance. Mais en tout cas, il y a eu des tentatives dans le passé. Vous avez cité le cas de l'Éthiopie. Oui, on a toujours manifesté un intérêt à entrer en Éthiopie parce que c'est l'un des plus gros marchés africains, plus de 100 millions d'habitants. Et c'est le dernier monopole dans l'industrie télécom en Afrique. Donc c'est l'un des rares pays où on a un monopole et où il y a un potentiel important. Donc, ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu des changements dans les règles du jeu. Enfin, c'est pas des changements. Les règles du jeu ont été fixées de manière un peu tardive en ce qui concerne en particulier l'accès aux infrastructures de Ethio Telecom, qui a le monopole aujourd'hui. mais aussi en ce qui concerne la possibilité ou non de développer des services financiers mobiles. C'est important pour nous parce que dans certains pays, c'est 10% de notre chiffre d'affaires, les services financiers mobiles. Donc pour ces raisons-là, on n'a pas pu, dans les délais, faire une offre. Par contre, après, l'État a décidé d'ouvrir le capital de l'opérateur historique, Ethio Telecom. Nous avons manifesté notre intérêt aussi, jusqu'à ce que l'État décide de geler le processus, compte tenu de tous les développements sur le plan macroéconomique, international et national.
Dans la guerre du Tigré, qui
voilà,
a aussi
c'est
pesé.
Ça, exactement.
C'est vrai, à Nungay, qu'il y a encore beaucoup de terrain à défricher. Parmi les nombreuses attentes à l'égard d'Orange, il y a la couverture réseau, y compris dans des zones rurales éloignées des villes. En RDC, en République démocratique du Congo, de larges zones du territoire ne sont pas couvertes. Écoutez ce reportage de Denise Maéo, notre correspondante à Lubumbashi.
Dembo habite le village Kashimbala, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Lubumbashi. Il n'a pas de téléphone car le secteur n'est pas couvert par le réseau.
Ici, on n'a pas accès au réseau de télécommunications. Ça ne sert à rien d'avoir un téléphone parce que je ne peux même pas l'utiliser.
Pour capter le réseau téléphonique dans ce village, il faut monter sur une colline, explique Kaba, le frère jumeau de Dembo.
Lorsque je veux communiquer, j'ai recours à un ami du village qui a un téléphone. Je lui donne le numéro de contact de mon correspondant, puis nous allons chercher l'endroit couvert par le réseau. Parfois, il faut monter sur une termitière.
Papintamba tient une boutique au village Kashimbala. L'absence de réseau téléphonique affecte son petit commerce.
Je ne peux pas faire de transactions classiques, mais avec le réseau téléphonique, je peux envoyer ou recevoir de l'argent facilement et faire avancer mon commerce.
Un autre secteur touché est celui de l'éducation. À l'école, la fraternité est la seule du village. Les élèves et les enseignants n'ont pas accès à Internet. Théo est enseignant de la 4e primaire.
Nous sommes au village, les enfants n'ont pas de téléphone, comment ils peuvent aller faire des recherches sur Internet? C'est seulement que nous qui avons des petits téléphones.
Autre difficulté, les rares personnes qui ont un téléphone doivent parcourir 2 kilomètres pour se procurer du crédit et recharger leur compte.
Reportage de Denise Maéo, enjeux multiples, on vient de l'entendre. Hein. Bon, il y a la couverture réseau, on va en parler, mais il y a aussi aider des entreprises à prospérer, aider des enfants à étudier tout simplement, lourde responsabilité. Vous êtes comme un service public?
Oui, là, on considère que notre mission, c'est d'accélérer l'inclusion digitale sur le continent et de permettre aussi à ce continent dont la moitié de la population a moins de 20 ans, qui est appétent aux nouvelles technologies, de pouvoir prendre son destin numérique en main et son destin d'une manière plus générale. Sur la couverture réseau, on investit 1 milliard par an. On a aussi des programmes dédiés à la couverture rurale. Il y en a un qui s'appelle IDEAL, c'est donc Include Digital in Every African Life. Il est innovant parce qu'il développe des partenariats avec d'autres acteurs qui installent les équipements dans les zones rurales. On a un modèle de partage de revenus avec eux. Et aujourd'hui, nous l'avons installé déjà. Nous avons installé 1000 sites. Pour donner un exemple, en Guinée-Bissau, pendant l'année 2021, on a couvert 1000 villages en installant comme ça 150 sites dans des zones vraiment rurales, ultra-rurales. Donc, ça permet, on a un potentiel qu'on estime à 5000 sites pour couvrir 20 millions d'habitants sur le continent en ultra-rural. Maintenant, il faut bien savoir que la question de la couverture n'est pas la question essentielle. C'est vrai qu'il faut continuer à déployer le réseau.
Du point de vue des gens qui en sont privés,
tout
c'est
à fait,
essentiel.
Je suis d'accord. Il faut continuer à déployer les réseaux dans les zones non couvertes. Mais il faut savoir qu'il y a, dès fin 2020, en Afrique, 520 millions d'Africains qui sont couverts par un réseau haut débit, mobile, 3G, 4G, et qui n'utilisent pas Internet. 520 millions. Et les freins, ce n'est pas la couverture. Les freins, c'est le prix du téléphone, premièrement. Deuxièmement, le tarif des services. Et troisièmement aussi, les compétences digitales pour pouvoir utiliser ces smartphones. Et Orange travaille justement sur ces trois axes pour faciliter l'accès aux populations.
Comment vous facilitez l'accès à ces téléphones et surtout l'acquisition des compétences nécessaires à l'utilisation des services digitaux?
D'abord, l'accès aux terminaux. Il faut savoir, aujourd'hui, en Afrique, un smartphone entrée de gamme, c'est 60% du revenu moyen des populations, 60% du revenu mensuel. Donc, autant dire que ce n'est pas abordable. Et ce que fait Orange, c'est justement développer des partenariats avec des grands acteurs technologiques comme Google, pour offrir des produits qu'on appelle les Sanza, qui sont des smartphones qui coûtent $30. C'est un moyen pour nous d'aider les populations à accéder à Internet. On développe avec Google un système d'exploitation qui est issu d'Android, allégé, dans lequel on embarque les services qui sont les plus utilisés par les clients, Google, WhatsApp, Facebook, etc., qui sont embarqués nativement dans le téléphone. Et on en a vendu 100 000 sur le périmètre. Et puis d'autres téléphones à touche qui ne sont pas des touch phones, mais on en a vendu 250 000 dans la région. En ce qui concerne les compétences digitales, on a lancé un projet qui s'appelle Orange Digital Center. Orange Digital Center est un écosystème dans lequel les jeunes ont accès gratuitement à de la formation pour faire du codage. Quand ils ont un projet digital, c'est un centre d'incubation pour eux, c'est aussi un centre d'accélération de leur projet et c'est aussi un centre dans lequel on finance les projets. Parce qu'on a créé un fonds Africa Venture, qui est un fonds de 50 millions d'euros uniquement pour accompagner les startups africaines. Alors, ces ODC, on en a ouvert 10 dans 10 pays. Ils travaillent en réseau. On a vocation, d'ailleurs, le groupe Orange a décidé de l'installer dans tous les pays où il est présent, y compris dans les pays européens. Et c'est vraiment le projet emblématique d'Orange. Parce que pour nous, pour Orange, c'est cette question de compétences digitales est l'enjeu le plus stratégique pour le continent africain. Ce n'est pas les matières premières qui constituent une richesse pour développer l'Afrique. Non, c'est les 50% de jeunes là qui ont moins de 20 ans à qui il faut donner les compétences digitales pour qu'ils prennent en charge leur destin.
Donc vous espérez pousser, aider le futur Google africain. Ces GAFAM, Stéphane Richard en a parlé, il estime qu'ils ne participent pas assez aux investissements en Afrique, notamment dans les infrastructures. Ça change un petit peu, on voit des projets de câbles comme Equiano. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont un petit peu mieux encadrés par les États, par les régulateurs et qu'on les amène à participer davantage au jeu pour l'instant qui était mené par les opérateurs télécoms avec de lourds investissements, vous l'avez rappelé, plus d'un milliard par an?
Tout à fait. Je pense que c'est évident qu'ils font, ils participent un peu plus qu'il y a une décennie au développement de l'Internet. Non, mais en particulier sur le déploiement des câbles sous-marins. Ils déploient dans certains pays, ils participent au déploiement des backbones en fibre optique à l'intérieur du pays. Mais encore une fois, ils sont très loin parce qu'il faut, 10 000 milliards pour que l'accès soit universel en 2030 sur le continent africain. C'est à la portée des GAFAM, mais je pense que leur contribution aux investissements qui sont faits aujourd'hui n'est pas à la hauteur des revenus qu'ils tirent du nombre de clients qu'ils ont sur le continent africain. Et je ne pense pas que les États arrivent pour l'instant, ni en Afrique ni en Europe d'ailleurs, à les amener à contribuer plus pour l'accès à l'Internet.
Alioune Ndiaye, le directeur général d'Orange en Afrique, avec nous encore pour quelques minutes. Écoutons cette archive d'un journal télévisé, c'était il y a un an, mars 2021, dans les rues de Dakar au Sénégal.
Les rues de Dakar n'avaient probablement jamais connu un tel déchaînement de violence. La police et les manifestants se disputent chaque mètre dans presque tous les quartiers de la capitale. La France étant considérée comme un soutien du président sénégalais, les enseignes françaises ont été particulièrement visées.
Émeutes à Dakar et dans plusieurs villes du Sénégal, en partie pour des raisons politiques intérieures, sur fond de sentiments anti-français, des enseignes comme Auchan ou Orange ont été visées. Alioune Ndiaye, comment faire passer le message que les entreprises, comme la vôtre, ne doivent pas être victimes de soubresauts politiques?
D'abord, faire remarquer qu'à Dakar, en mars, le premier jour des émeutes, aucune agence d'Orange n'a été touchée. Mmh. Aucune. Et bon, évidemment, après, il y a aussi des groupuscules qui se sont organisés pour qu'Orange fasse partie des victimes de cette affaire-là. Ce que nous disons aujourd'hui sur le continent, c'est que Orange et Omea, Orange Middle East and Africa, est une entreprise qui est africaine. Nous avons 18 000 salariés sur le continent, nos opérations sont dirigées par des gens qui sont sur le continent. Nous pensons nos services pour répondre à des besoins des clients sur le continent africain.
Mais le siège social est à Paris.
Non, justement, depuis décembre 2019, Pour Omea. Donc, non, mais Orange est une entreprise internationale. Mm. Mais elle a décidé de créer une holding, Orange Middle East and Africa, en 2015, pour justement renforcer l'ancrage en Afrique, donner plus d'autonomie, renforcer l'ancrage, et puis aussi nous permettre de penser, de localiser tous les centres d'expertise, de compétences et tout ça sur le continent, principalement à Abidjan et Dakar, de penser nos services à partir de là-bas par des Africains pour les Africains.
Donc c'est le message, n'attaquez pas les Africains.
Bien sûr.
Julien.
L'Afrique, en matière de stabilité politique, ce n'est pas vraiment une assurance tout risque. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, vous avez vécu les printemps arabes en Tunisie, en Égypte. Aujourd'hui, ce sont les coups d'État au Mali, en Guinée, au Burkina. Comment on gère cette question de la stabilité dont vous parliez tout à l'heure, de la prévisibilité qui est tellement importante pour les investisseurs?
On dit ça, mais en même temps, quand on regarde la décennie 2009-2018, Orange en Afrique, c'est une croissance moyenne annuelle de 4,2%. Jamais le revenu n'a baissé. Le point bas, c'est 2,3%. Donc on parle d'un continent où il y a eu les printemps arabes, la dévaluation de la livre égyptienne de 90% quand même, hein. La crise de la zone UOMOA, la crise la plus dure sur la décennie. Il y a eu les événements en Côte d'Ivoire en 2011, dont tout le monde se souvient. Malgré tout ça, c'est quand même notre activité sur le continent, elle est plutôt très résiliente. Et elle s'accélère parce que 2019, on a fait 6,2% de croissance. 2020, malgré la Covid, on a fait 4,2% de croissance. 2021, on a une croissance à deux chiffres.
La Covid vous a plutôt profité, aux services numériques en général.
Depuis 2021, oui, il y a un rebond qui est dû à la crise Covid, mais tant mieux. Je pense que le continent dans son ensemble a retrouvé de la croissance en 2021.
Même pendant le Covid, même pendant l'explosion de la pandémie, les gens ont continué à se parler à distance. Enfin, pour vous, ce n'était pas le problème.
C'est ça, mais les restrictions nous ont quand même impacté, forcément, parce que quand on ne peut pas distribuer ses produits et services, on est impacté, on est forcément impacté. En tout cas, l'Afrique a connu une récession en 2020, pour la première fois en 30 ans. En 2021, elle a retrouvé la croissance.
Donc l'instabilité politique, ce n'est pas vraiment un problème pour Orange?
C'est un problème parce qu'on vit dans les pays où ça arrive. Donc l'insécurité est un problème. Quand il y a des coups d'État dans les trois pays que vous avez cités, il y a des problèmes de sécurité derrière. Pour nous, la sécurité de nos salariés, c'est primordial pour permettre d'assurer une continuité de service pour nos clients. Donc c'est un problème, mais enfin, l'impact business de ce problème-là n'est pas le plus important.
On a encore deux ou trois questions à Lundiaï à vous poser. Réponse assez rapide, s'il vous plaît. Parmi les autres confrontations du moment, bon, il y a certes cette guerre en Ukraine, il y a aussi ce duel entre les États-Unis et la Chine avec l'entreprise Huawei qui est partie prenante, qui a perdu une partie de son chiffre d'affaires en 2021. Est-ce que en Afrique, vous avez, comme en Europe, réorienté une partie de vos achats vers d'autres fournisseurs, vers d'autres partenaires que Huawei?
Notre stratégie sur le continent en matière de relations avec les équipementiers, ça a toujours été une stratégie de partenaires multiples. On ne veut pas être à la main d'un seul équipementier. Et c'est pour cette raison qu'au début des années 2000, Huawei est rentré sur le marché africain. Huawei n'y était pas avant. Aujourd'hui, il a peut-être 65-70% de part de marché sur l'Afrique.
Formidable succès.
Mais en partant de zéro au début des années 2000. Et c'est quand ils sont arrivés sur les marchés, les prix ont baissé de 40%. S'il n'y avait pas les équipementiers chinois, je pense que la pénétration qu'on a aujourd'hui sur le continent africain des services télécom et Internet, on ne l'aurait pas eu. Cela dit, la règle reste la même. On ne veut pas être dépendant d'un seul équipementier. Donc, il faut avoir une stratégie qui permette de mitiger une trop forte dépendance à Huawei. Donc, il faut tout faire pour préserver sur le continent des équipementiers qui sont nos fournisseurs, qui ne soient pas forcément Huawei.
Surtout quand il y a des questions sur la sécurité de ces équipements. On sait que Huawei fait souvent les titres de l'actualité.
Bon, moi, j'ai pas encore vu de cas démontré, en tout cas dans nos réseaux. Parce que nous, n'oubliez pas, hein, Orange supervise aussi ce que fait Huawei dans ses réseaux. En tout cas, je ne connais pas de cas.
Y compris les données collectées. Donc, là,
c'est ça, justement. Orange a un centre de supervision, y compris sur la zone Afrique-Moyen-Orient, qui permettent de savoir tracer toutes les entrées, toutes les données qui auraient été prélevées, etc. Et pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de cas de données volées, etc.
question sur les dépenses énergétiques liées au numérique, Julien.
Votre industrie est très énergivore. Elle est même peut-être pénalisée par la crise ukrainienne et l'augmentation des cours du pétrole. Vous avez pour ambition de réduire votre empreinte carbone d'ici 2025 de moitié. Comment faites-vous ?
Rappelez le cadre global. Quand il y a eu la COP21 en 2015, l'objectif c'était de réduire l'empreinte carbone de manière à ce que l'augmentation de la température ne dépasse pas 1,5 degré d'ici 2050. Avec donc l'objectif de net zéro carbone en 2050. Ça, c'est l'objectif que tous les États sont fixés. Orange s'est fixé un objectif de net zéro carbone avec 10 ans d'avance en 2040. Et ce que nous faisons pour y arriver, c'est que nous investissons dans les énergies renouvelables.
Compris en Afrique.
Y compris en Afrique.
Le solaire.
Afrique et Moyen-Orient. On a construit une ferme solaire en Jordanie. Ça veut dire que toute la production d'énergie que nous consommons par nos réseaux, nos bâtiments administratifs, techniques et tout ça, on produit l'équivalent avec une énergie propre. On le vend au distributeur d'énergie qui, après, avec lui, on trouve un compromis pour qu'il nous le facture moins cher. On a eu une autorisation au Mali il y a plus d'un an pour lancer une ferme solaire. Idem, on va produire 25 mégawatts au Mali qu'on va injecter dans le réseau d'énergie du Mali, qui est la société publique, et on va pouvoir aussi avoir 100% d'énergie propre pour notre propre consommation. Deuxièmement, on a à peu près 35 000 sites.
Des tours.
Des tours. Il y en a 5400 qui sont des sites solaires ou quelques-uns hybrides, c'est-à-dire solaires et groupes électrogènes. Ça permet d'économiser 55 millions de litres de fuel par an. Et donc, on a un programme. Aujourd'hui, on était à 20% en 2020 d'énergie renouvelable. On compte arriver à 33% en 2025 et atteindre les 50% à l'horizon de...
Est-ce qu'on vous verra un jour distribuer de l'électricité, en vendre comme vous le faites en Pologne ? Est-ce qu'on le verra en Afrique ?
On a commencé d'abord en Afrique. Aujourd'hui, on a une solution qui s'appelle Orange Smart Energy, qui est donc une solution de fourniture de kits solaires. On fournit des kits à des populations qui payent par Orange Money au jour le jour, donc c'est abordable, et qui arrivent à s'éclairer, recharger leur téléphone ou alors regarder même la télévision. Et on a aujourd'hui 500 000 personnes sur le continent qui utilisent déjà cette solution. On l'a déployée dans 9 pays et on continue à le déployer.
Toute dernière question à Youn Diaye avant de se quitter. On sait que vous êtes un amateur de football, on sait que vous êtes sénégalais. On imagine que vous êtes ravi en ce moment, la CAN et maintenant la Coupe du Monde.
Oui, plus que ravi. Ravi de voir enfin le Sénégal, après autant de décennies, remporter la Coupe. Et je suis surtout fier aussi de cet état d'esprit de ces jeunes footballeurs sénégalais. Je pense qu'ils incarnent une Afrique qui gagne, une Afrique qui veut se faire respecter.
La finale de la Coupe du Monde, France-Sénégal. Allez, un remake de 2002.
On fera comme en 2002. Si ça arrive, j'espère qu'on fera comme en 2002.
Merci. Merci à vous, Youn Diaye, d'avoir été le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. On poursuit la discussion sur les réseaux sociaux, dans les colonnes de Jeune Afrique. Merci, Julien.
Merci Bruno.
Merci à Guillaume Munier et à Julien Leng pour la réalisation audio et vidéo de cette émission. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Portez-vous bien.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.